Bonjour Johan Lefebvre.
Bonjour Bernard.
On a vu dans les deux premières capsules consacrées à Chet Baker ses apprentissages musicaux, ses premières rencontres, ses premières influences, le début de sa carrière professionnelle. Il a la trentaine. Que se passe-t-il à partir de cette époque-là qui va influencer peut-être pas directement sa musique, quoique, mais qui va influencer très largement le déroulement de sa propre vie?
Eh bien Bernard, on est en 1955, Chet Baker est un icône du jazz aux États-Unis et il part pour la deuxième fois en Europe puisqu'il y était déjà allé avec Charlie Parker. Et il part en Europe pour enregistrer pour la firme d'Eddie Barclay qui est en train de vulgariser le jazz en Europe. Et c'est là qu'il y vit son premier drame. Son pianiste et ami Dick Fartzik meurt quelques jours après les débuts des enregistrements d'une overdose. Les parents de ce jeune pianiste accusent Chet de la mort de leur fils, mais Chet poursuit quand même sa tournée avec les musiciens français. Après 7 mois de tournée, il rentre sur la côte ouest et grave de nombreux disques, avec notamment le saxophoniste alto et clarinettiste Art Pepper, The Root and the Playboy. Ce n'est plus un secret, Chet est dépendant à l'héroïne. Il est alors arrêté en possession de drogue en 1957. En 1958, il signe sur Riverside. Riverside, très grande boîte de production de disques de jazz aux États-Unis. Et il enregistre un disque avec le pianiste Bill Evans. On en a déjà parlé dans une capsule précédente. Et Philly Joe Jones, qui était un des premiers batteurs du quintet de Miles Davis, eux aussi drogués notoires. Il est vraiment en plein dans la drogue et il est en train de sombrer.
Et alors comment arrive-t-il à continuer sa vie de musicien, de jazzman?
Eh bien, il retourne en Europe sitôt après avoir enregistré ce disque avec sa femme et ses 3 enfants. Et il est arrêté et emprisonné de nombreuses fois.
Toujours pour des histoires de drogue.
Oui, c'est ça. Il est expulsé d'Allemagne, il est expulsé d'Italie. Il a pourtant beaucoup de succès en Europe et rencontre, comme le disent la plupart des jazzmen de l'époque, un public plus à l'écoute qu'aux États-Unis. Uh-huh. Enfin, nouveauté dans ces années-là, il découvre et s'initie au bugle. Le bugle, c'est un tout petit tuba qui est de la même hauteur que la trompette, donc qui a un son très rond et qui est plus facile à jouer. Et je pense que l'état de fatigue de Chet Baker y est pas pour rien.
À ce moment-là, il retourne aux États-Unis, on est en 65.
Oui, mais aux États-Unis, il y retourne, la vie va très vite là-bas, il n'est plus du tout connu, il n'a plus la même aura qu'il avait avant. Il peine à trouver des musiciens avec qui jouer, il n'a pas beaucoup d'engagement et il continue à sombrer dans la drogue. Et malheureusement, il se fait casser la mâchoire par des dealers à San Francisco en 1966 qui l'empêchent totalement de continuer à jouer. Il doit réapprendre à jouer avec un appareil dentaire, ce qui est totalement fou pour un trompettiste.
On va découvrir ça dans la capsule de la semaine prochaine. Merci, Johan.
Merci,
Bernard. Culture 5 tire à sa fin, mais je ne voudrais pas que nous nous quittions avant d'avoir écouté les 2 minutes que Magdeleine consacre à l'un de ses personnages préférés.